Vous êtes sur RTL.
RTL Soir avec vous, Julien Cellier, Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. À la une, le bras de fer. Vous ne trouvez plus d'essence, et bien la première ministre Elisabeth Borne lance les premières réquisitions de personnel.
Dans le viseur du gouvernement, les dépôts de carburant SO, en revanche chez Total, dialogue social quasiment au point mort.
Pendant ce temps-là, vos réservoirs se vident, nous serons avec des taxis, avec des auto-écoles bien désemparées, et puis nous avons passé la journée dans une station service, stress et tension garantie. Les autres titres de l'actu, là aussi du bras de fer, Marion.
Kylian Mbappé, saison 3, épisode 350. L'attaquant international qui avait choisi de rester à Paris au printemps dernier veut finalement partir. Nouveau caprice. On vous raconte tout dans un instant. Et puis, nouveau bombardement russe en Ukraine, des sites énergétiques visés. Et il y a quelques minutes, Paris qui annonce le renforcement de sa présence militaire en Roumanie en voie de chars et de blindés.
À 18h15, Julie Gayet sera notre invitée. Soirée spéciale sur M6. L'actrice est à l'affiche du Souffle du Dragon. Formidable film sur des femmes qui pagaient ensemble sur un drôle de bateau pour lutter contre le cancer du sein. C'est une histoire vraie. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et compagnie. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu s'il vous plaît.
Ce soir, les secrets des missiles solaires qui détruisent les bombes russes dans le ciel ukrainien. Au menu également, la France, seulement 18e des championnats du monde de dégustation de vin à l'aveugle. Tout se perd. Et le business des cartes de foot que vous échangiez dans la cour de récré, qui peut rapporter très gros.
La carte Mbappé au PSG, elle rapporte combien?
Elle va rapporter très cher si ça continue.
19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et Aurélie Arbemont. Et puis le temps deux fois par demi-heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Lumineux au nord, plus mitigé au sud.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et cette fois, le gouvernement a bel et bien décidé de tordre le bras aux grévistes des sites pétroliers.
En tout cas, ceux du groupe Esso ExxonMobil, où un accord a été signé par deux syndicats. Et la première ministre, Elisabeth Borne, a donc décidé de sévir. Cet après-midi, elle l'a annoncé à l'Assemblée.
Une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir.
On a besoin de comprendre. Procédure de réquisition lancée, qu'est-ce que ça veut dire? Il va se passer quoi maintenant?
Eh bien Julien, j'aimerais bien vous dévoiler le plan du gouvernement, mais en réalité depuis cette annonce à 15h, c'est le grand flou. Tous les conseillers que nous avons interrogés se renvoient la balle. Personne n'est capable de nous dire quelle forme prendront ces réquisitions et surtout quand elles seront mises en place. Une fois que je vous ai dit ça, on va quand même essayer d'y voir plus clair. Aujourd'hui, les grèves concernent deux types de lieux, les dépôts et les raffineries. Ces réquisitions annoncées cet après-midi ne concerneront que les dépôts et uniquement ceux du groupe Esso, on vient de le dire. Cela représente donc trois lieux en France, en Normandie, dans les Bouches-du-Rhône et à côté de Toulouse. Et si le gouvernement a choisi de débloquer les dépôts plutôt que les raffineries, c'est avant tout pour avoir des résultats vite. Il faut une dizaine de personnes seulement pour relancer un dépôt. Il n'y a donc pas de risque d'avoir pour le gouvernement des images de policiers et de matraques. Et surtout, ça permet donc d'avoir des conséquences pour les Français très rapidement. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'une fois que les stocks seront vidés, si les raffineries sont toujours en grève, là, c'est le retour de la pénurie.
Voilà, un peu d'effet d'annonce aussi autour de cette déclaration de la première ministre. L'argument d'Elisabeth Borne, c'est donc l'accord trouvé chez Esso ExxonMobil, accord majoritaire, dit-elle, signé par deux syndicats majoritaires en effet à l'échelle du groupe, mais pas à l'échelle des raffineries bloquées, comme le souligne Germinal Lancelin de la CGT du site normand de Port-Jérôme-Gravenchon, qui n'entend pas lever le camp.
Nous, on est outrés, on va bafouer le droit de grève en France, qui est un droit constitutionnel des travailleurs à se mettre en grève. Nous, c'est notre seul moyen pacifique de réussir à défendre nos droits. Donc c'est honteux dans une république qui est quand même censée être exemplaire aujourd'hui. C'est juste écœurant. Aujourd'hui, on a déjà des personnels requis pour assurer la sécurité dans les installations. Et j'imagine mal un gendarme derrière chaque opérateur pour lui dire « tourne cette vanne ». Quoi. Je vois pas du tout comment c'est possible de mettre ça en place. On a beaucoup d'appels en ce moment. On a notre fédération qui appelle tous les syndicats de toutes les branches à se manifester et à venir nous soutenir pour justement contrer cette réquisition.
À Germinal Lancelin de la CGT du site normand Esso ExxonMobil, il répondait pour RTL à Frédéric Veil. Réquisition position donc pour ce groupe pétrolier, mais mouvement reconduit hein, chez Total Energy, qui est de loin le plus gros fournisseur de carburant de l'Hexagone.
Et aussi le plus touché d'ailleurs par cette grève pour les salaires. Pourtant, Arnaud Touche, chez Total, toujours pas de négociation à l'horizon.
À 18h05, clairement non. La situation est sensiblement la même qu'il y a 48 heures. La direction de Total propose toujours à la CGT de venir négocier à condition de lever les blocages. Et c'est bien ce terme qui ne passe pas auprès de la CGT qui explique qu'il n'y a pas de blocage mais un exercice du droit de grève dans les raffineries et que ce n'est pas du tout pareil. La CGT souhaite que la direction de Total fasse des propositions et peut-être qu'elle lèvera la grève. Seule petite avancée ce soir. Une source proche du dossier nous indique qu'un coup de fil entre la direction et la CGT a eu lieu aujourd'hui. Je vous parle de petite avancée car les deux parties ne se parlaient plus depuis 10 jours. C'est quand même une petite avancée ce soir. Reste à savoir désormais si ce coup de fil a pu faire avancer les choses. Chacun a rappelé ses positions, m'explique une autre source. En tout cas, la direction est prête à se mettre autour de la table dès demain matin avec tous les syndicats. Et pour le moment, la CGT reste inflexible.
Un coup de fil, c'est déjà ça la CGT qui, on le rappelle, hein, demande 10% d'augmentation des salaires. L'approvisionnement des stations au compte-goutte, donc faire le plein relève toujours par endroit de l'exploit. En première ligne, certaines professions. Chez les taxis, un véhicule sur trois à l'arrêt, d'après l'Union nationale des taxis. Et vous l'avez constaté pour RTL à la gare Saint-Lazare à Paris, Simon Marseille, les voitures, en effet, se font rares.
Ici, à la gare Saint-Lazare, ce sont les chauffeurs qui attendent habituellement leurs clients. Mais ce matin, c'est le contraire. Voilà, les véhicules arrivent au compte-gouttes sur le parvis. Du jamais vu pour Ibrahim dans la file d'attente des voyageurs.
Il y a toujours au moins 5 ou 6 taxis qui sont en maraude. Il y a toujours possibilité d'en trouver rapidement.
Et là, vous avez attendu combien de temps ?
Là, ça fait 10 minutes que je suis ici.
La raison de ces retards ?
J'ai dû commencer à 11h, 11h30 parce que j'étais à la recherche de carburant.
Mohamed, chauffeur depuis un mois.
Alors, vous imaginez la perte de temps et la perte d'argent.
Combien de manque à gagner, justement ?
Bah écoutez, vous faites le calcul, c'est vite fait. Hein. On perd à peu près 40% de notre chiffre d'affaires par jour. Ouais, 120 euros, 130 euros.
Pour son collègue Farid, hors de question de subir la queue trop souvent dans les stations-service.
On fait les pirates. On a toujours un copain qui est dans le bâtiment, qui arrive à nous avoir des jerrycans.
La dernière fois que vous avez rempli un jerrycan, c'était quand ?
Ce matin.
Une pratique bientôt interdite sur l'ensemble du territoire français. En attendant, tous les taxis réclament la même faveur, un accès prioritaire à la pompe.
Et la situation dans les stations essence hein, qui s'est invitée à l'Assemblée, question au gouvernement agitée cet après-midi et pas qu'autour du manque de carburant d'ailleurs. Incident entre le Rassemblement national et le ministre de l'économie, traité de lâche par un député RN, demande d'excuses solennelles de Bruno Le Maire. Les élus RN ont brièvement quitté l'Assemblée. Celui qui avait insulté hein, le ministre, en tout cas qui l'a traité de lâche, a été sanctionné.
Allez, petite pause et dans un instant dans ce journal, dans RTL Soir. Il devait partir, il est resté, mais finalement, il va peut-être quand même partir. Vous avez aimé le feuilleton Mbappé au printemps, et bien il est relancé. On vous explique tout juste après ça, tout de suite sur RTL.
Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir. C'est donc la suite d'un feuilleton qu'on pensait terminé. On découvre aujourd'hui que Kylian Mbappé a des envies d'ailleurs.
Il n'a pas voulu du Real Madrid cet été, il a préféré rester au PSG avec la promesse d'être au centre du projet du club. Et 5 mois plus tard, patatras.
Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Vous pouvez le confirmer ce soir sur RTL, Kylian Mbappé menace de s'en aller.
Alors c'est plus qu'une menace, hein, c'est un véritable coup de pression qu'il envoie à sa direction à Doha, au Qatar. Il est tout simplement déçu, Kylian Mbappé. Il se sent trompé, il se sent trahi. Le Qatar s'était mis à ses pieds, on s'en souvient, pour arracher cette prolongation qui semblait absolument impossible. Et dans les promesses qui lui ont été faites, vous l'évoquiez, il devait être le joueur majeur autour duquel tout est centré. Les autres s'adaptent ou vont voir ailleurs. Et Neymar, par exemple, devait normalement partir. Ça n'a pas été le cas et factuellement, eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt Kylian Mbappé qui s'adapte aux autres sur le terrain et ça, il ne le supporte pas. Si on ajoute à cela un mercato trop timide à ses yeux, Mbappé sort donc la sulfateuse à un moment précis. On est à un mois à peu près de la Coupe du Monde. Il sait que pour le Qatar, c'est un enjeu, c'est un levier de pression extraordinaire.
Mais alors, est-ce qu'il peut partir réellement, Philippe, Kylian Mbappé ? Et pour aller où, d'ailleurs ?
Alors là, c'est quand même beaucoup plus improbable. Hein. Les transferts de ce niveau, on le sait, ne se négocient pas en 2 mois. Il y a 2 ans de contrat à racheter. Le Real, on le sait, a perdu la face dans ce dossier. Les deux présidents, Nasser El Khelaïfi et Florentino Pérez, sont en guerre froide, c'est un, le mot est faible, depuis maintenant plusieurs mois sur divers dossiers. Certains clubs comme Liverpool pourraient en profiter pour sortir du bois, mais c'est surtout, on l'a dit, un bras de fer en interne qui se profile. Mbappé travaille aussi en sous-main pour les autres membres du club, Luis Campos, le conseiller sportif, ou encore Christophe Galtier, l'entraîneur, qui sont clairement dans, dans le clan Mbappé et qui veulent la peau d'un des conseillers de Nasser El Khelaïfi, à savoir Antero Henrique, qui travaille aussi sur le mercato. On va savoir, très simplement, si ce monsieur s'en va, si le Qatar casse sa tirelire au mercato d'hiver. Ça voudra tout simplement dire que Kylian Mbappé est devenu l'homme le plus important du club au Paris Saint-Germain.
Bon, en tout cas, belle ambiance en vue ce soir au Parc des Princes. On rappelle qu'il y a quand même un match de Ligue des Champions qui va démarrer dans moins de 3 heures maintenant, le PSG face au Benfica Lisbonne. Ce sera à vivre en direct, en intégralité sur RTL. On peut s'attendre à quelques sifflets, Philippe ? C'est possible ?
C'est très probable. Messi a déjà été sifflé, Neymar également, pourquoi pas autour d'Mbappé. On sait qu'il se nourrit souvent de cela. Il est capable aussi de mettre 2 ou 3 buts. Ça peut créer une soirée assez historique.
Et bon, ce sera sur RTL ce soir.
RTL Soir. Et ce soir, le G7 promet de demander des comptes à Vladimir Poutine après les bombardements d'hier sur l'Ukraine, des frappes qui ont continué aujourd'hui, cette fois contre des infrastructures, des sites énergétiques ciblés, qui mettent d'ailleurs, Émilie Bogère, le pays sous tension.
Et oui, elles vivent dans l'Ouest. 30% des habitations de la ville sont dans le noir ce soir et l'eau est fournie par intermittence. Le Premier ministre ukrainien a demandé à tous les habitants du pays d'économiser au maximum l'électricité entre 17h et 23h pour permettre des délestages et les réparations sur les centrales électriques. Il s'agit aussi d'éviter les surtensions et que le système craque. Un effort qui va même plus loin à Dnipro, dans le centre, où les frappes russes ont touché d'importantes infrastructures. Là-bas, les Ukrainiens doivent éviter au maximum toute la journée d'utiliser le courant pour permettre aux hôpitaux et aux transports de continuer à fonctionner. Plus au nord, à Kiev, la capitale, après les frappes d'hier et d'aujourd'hui, la ville prend plusieurs mesures. L'école repasse en distanciel pour le moment. Les habitants sont appelés à stocker de la nourriture et de l'eau dans les abris. Et puis le maire rappelle aussi qu'il ne faut pas négliger les sirènes d'alerte et se mettre en sécurité dès qu'elles retentissent.
Et ajoutons qu'après ces frappes russes sur l'Ukraine, Paris a décidé de renforcer son déploiement militaire dans l'Est, dans le cadre de l'OTAN. Aide militaire renforcée avec des chars et des blindés envoyés en Roumanie, une compagnie d'infanterie légère en Estonie et des rafales en Lituanie.
Merci Marion, à tout à l'heure. On va passer au temps pour demain. Peggy, à quelle sauce serons-nous mangés ?
Alors, on a la perturbation d'aujourd'hui qu'on va retrouver demain matin entre les Pyrénées, l'Occitanie et la région Rhône-Alpes, avec beaucoup de nuages et encore quelques averses. Partout ailleurs, on aura un temps sec avec des bandes brouillards et quelques grisailles du sud-ouest au nord-est. Et une fois tout ça dissipé, on va retrouver un ciel souvent sec avec de belles éclaircies, notamment entre les Charentes, l'Île-de-France et le nord des frontières du nord. Partout ailleurs, entre nuages et éclaircies, et les averses vont se limiter uniquement au relief. Tout ça sous des températures bien fraîches le matin au nord. On a même quelques petites gelées matinales du côté des Hauts-de-France avec 2 degrés seulement demain matin à Lille, donc on se couvre bien. Et l'après-midi, de 16 à Cherbourg à 24 à Marseille, ça reste doux dans le sud. 17 à Lille, 18 à Paris, 20 à Tours, 21 à Bordeaux et 22 à Toulouse.
Merci Peggy. On va marquer une toute petite pause dans RTL Soir et puis ensuite Julie Gayet va nous rejoindre, l'actrice Sorano. Notre invitée, elle est à l'affiche d'un très joli film ce soir, c'est sur M6, Le Souffle du Dragon. Une histoire vraie des femmes qui rament ensemble sur un curieux bateau pour lutter contre le cancer du sein. A tout de suite, vous êtes bien sur RTL, restez avec nous.
Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
18h18, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL Soir. Et un petit conseil télé, on vous invite à vous brancher sur M6 dans moins de 3 heures maintenant, parce qu'à 21h10, vous pourrez y voir un film absolument formidable dans le cadre d'Octobre Rose, Le Souffle du Dragon, film dans lequel joue notre invité. Bonsoir Julie Gayet.
Bonsoir.
Alors c'est un film de Stéphanie Pilonka qui raconte une histoire vraie des femmes qui rament chaque semaine ensemble à bord d'un étrange bateau, on peut le dire, avec une tête de dragon. Et ces femmes, elles ont toutes connu un cancer du sein. Alors pagayer, c'est lutter contre la récidive. C'est bénéfique, c'est prouvé, c'est aussi se reconstruire physiquement, mentalement. Julie Gayet, ce film, il montre ce qu'on raconte rarement, et notamment dans la fiction, le retour à la vie de famille, à la vie professionnelle dite normale, ou comment soigner l'après, la peur de la rechute. C'est un autre parcours du combattant, quelque part, qui est filmé là.
Oui, parce que ça impacte toutes les familles, le couple, les enfants, forcément. Il y a quand même voilà, ça, une petite bombe qui leur sont tombées sur la tête et tout le monde a été comme ça ébranlé. Une fois que on repart dans la vie, est-ce que récidive, on a toujours un peu peur, l'inquiétude, comment...
L'épée de Damoclès permanente, en fait.
Voilà, oui et non, donc il faut savoir vivre après et puis se retrouver dans son couple, c'est ce qu'elle décrit bien. C'est cinq femmes, donc cinq parcours de femmes différentes, on est très différentes avec Julie de Bonnat, Bérangère Krief, Firmine Richard, Annie Grégorio, Lola de Vert. C'est une belle équipe, quoi. C'est comme le savent faire les... Stéphanie Piloncal nous a réunis comme les Anglais le font, les comédies comme ça.
Exactement.
Fumanti, ou ces comédies à l'anglo-saxonne. Et elle avait envie de montrer un peu tout type, voilà, tous ces différents parcours avec... moi, mon personnage est très différent de celui de Julie et elle l'a pas dit à sa famille.
Oui, c'est ça. Votre personnage, il a vraiment une histoire particulière parce qu'elle se reconstruit, mais elle n'a jamais parlé de son cancer, des séances de radiothérapie à son mari et à ses enfants.
Oui, elle a d'abord voulu les préserver, probablement, et puis se dire qu'elle allait prendre sur elle, comme beaucoup de femmes le font, et elle a vécu complètement seule, donc elle se retrouve dans ce groupe, et ça lui permet d'ailleurs de mieux se retrouver, d'où l'importance du groupe, de ces groupes. Et, mais finalement, quand son mari va le découvrir, oh mince, vous allez le voir ce soir.
On ne raconte pas la fin.
Mais donc, en tout cas, chacune a un rapport différent.
Ouais.
Et le film est extrêmement juste, je crois. Hein. En tout cas, on a fait quelques projections avec... en plus, on était accompagnés pendant le tournage, puisqu'il y a trois femmes qui étaient avec nous.
Des vraies rameuses. Parce que oui, c'est une histoire vraie. C'est un programme de reconstruction via le sport. Alors, on appelle ça les Dragon Boats, donc ces bateaux à tête de dragon. Ça a été initié à Reims, développé ailleurs maintenant partout en France. Donc, on a des vraies rameuses qui, toutes les semaines, se retrouvent entre elles. Et donc, trois d'entre elles, c'est ça, ont tourné avec vous.
Ouais.
On imagine qu'il y a eu des moments d'échange très, très forts, très poignants avec ces femmes qui, elles, ont connu la maladie, l'ont vaincue.
Ben, c'était assez formidable parce qu'elles nous apprenaient déjà à tenir la pagaie, à pagayer. Ouais. Elles nous ont raconté leur expérience. Et puis même pour nous, de les avoir à nos côtés, de se dire qu'elles sont passées par là, c'était assez fort et de partager. D'ailleurs, il y a un documentaire qui s'est fait qui a commencé à la fin du tournage et qui sera projeté après le film.
Diffusé ce soir sur M6, soirée spéciale, effectivement.
Et là, on voit bien comment le premier club s'est créé grâce à un médecin. Et le fait de pagayer, la lymphe circule, c'est meilleur contre la récidive. Et puis surtout, elles se retrouvent entre elles. Mmh. Donc, vous verrez dans le documentaire.
Ces vraies rameuses vous ont raconté la force du groupe, l'unité, l'entraide?
Ah oui, le plaisir. Alors au début, la peur de bouger, la peur de physiquement, alors qu'en fait, il faut bouger, il faut ne pas avoir peur de... Et combien entre elles ne font qu'un. Et là, on l'a senti, nous, avec Bérangère, Julie, de Bonnat, on était toutes sur ce dragon boat, donc c'est quand même un peu particulier, c'est vraiment, on est en déséquilibre. Donc s'il y en a une qui, tout à coup, décide de se lever et de sortir, on tombe tout à l'eau. Donc il y a vraiment cette sensation où on est obligé d'être soudés tout ensemble. On pagaie comme ça dans le même rythme. Il y a quelque chose d'assez, du groupe, quoi, vraiment ensemble. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle vague des féministes, des femmes, aujourd'hui, de se dire qu'ensemble, on va plus loin, on est plus forte. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien d'être ensemble en ayant vécu la même chose, et puis pas être chacune seule dans son coin.
Je précise aussi, donc vous l'avez dit, qu'il y aura donc ce documentaire sur les vraies rameuses, qui suivra le film ce soir sur M6. C'est une soirée spéciale qui sera animée par Ophélie Meunier. Est-ce que c'est aussi ce film l'occasion de lancer un appel, cette soirée? Est-ce que c'est l'occasion de lancer un appel? Parce qu'aujourd'hui, une femme sur deux seulement se fait dépister. Est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui nous écoutent, faites-le, il faut le faire.
Oui. Ah oui, et d'ailleurs, pendant cette émission où Ophélie Meunier m'a proposé de venir et on a fait un petit tuto pour savoir comment la palpation, déjà faire ça vraiment régulièrement, se regarder dans le miroir, regarder ses seins et voir s'il y a quelque chose. En tout cas, le dépistage, ça ne veut pas dire que parce que vous vous dépistez, vous allez avoir un cancer. Alors que Si par contre vous le prenez très tôt, ce sera mais nettement moins difficile le traitement.
Donc, un stade précoce, c'est 90% de guérison.
Exactement, donc faites-le, faisons-le, c'est vraiment très important. Et je trouve que ce mois octobre rose est merveilleux pour ça. C'est un mois où on va en parler. Mais parfois on se dit, bon, mais les femmes prennent pas forcément le temps de s'occuper d'elles d'ailleurs. Donc là, ce mois-ci, prenez le temps d'aller faire une mammo. Voilà, d'aller consulter un médecin, si en tout cas pas une mammo dans la seconde, mais consulter et prenez le temps de vous occuper de vous.
Ce film, quand vous l'a proposé, ce projet, vous vous êtes tout de suite dit, ça me concerne parce que je suis une femme, parce que les chiffres du cancer du sein sont assez terrifiants, c'est vrai. On a une femme sur 8 aujourd'hui qui va connaître un cancer du sein dans sa vie, donc on est forcément concerné.
Je crois qu'on a tout autour de nous quelqu'un qui a été touché, en réalité. Donc oui, une femme sur 8, c'est énorme. Moi, je me suis beaucoup engagée sur l'endométriose, qui est une maladie que les femmes connaissent peu. Et je me rends compte à quel point les femmes ne s'occupent pas de leur santé. Donc je le redis, prenez soin de vous. Et c'est important. On a plutôt tendance à s'occuper de tous nos entourages, ce que raconte très bien le film d'ailleurs. Et là, entre elles, elles se retrouvent et il y a cette sororité, cette force. Je crois que c'est un film émouvant. Vous allez sortir les Kleenex, je crois.
C'est un film émouvant, effectivement. J'ai une toute dernière question, Julie Gayet, sur toute autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de dingues de rugby dans cette rédaction qui m'ont fait remonter l'info ces derniers jours. Vous venez d'entrer au conseil de surveillance du club de rugby de Brive. Il y a un nouvel actionnaire très ambitieux. Ça, c'est une nouvelle aventure. Pourquoi Brive ? Pourquoi le rugby ?
Un jeune actionnaire qui doit avoir mon âge, donc c'était assez rigolo. Le rugby, j'ai produit un film d'un garçon qui s'appelait Olivier Lousteau, il y avait du rugby. Moi qui suis plutôt fan de foot, depuis toujours, depuis Delphine 1, Yvan 0, j'ai découvert le rugby, ce sport fou. Et puis, de cœur, en Corrèze, je me suis retrouvée souvent à Brive, pour le CA Brive. et je suis tous les matchs du CA Brive, je peux vous le dire. donc j'ai commencé à vibrer pour ce club et vraiment avoir envie de m'y investir aussi pour la place des femmes, parce que pareil, le rugby féminin, je trouve que c'est très intéressant. Ah ouais. J'aime le foot et le foot féminin et je me suis dit, c'est quand même bien qu'il y ait une femme dans ce CA.
Dans ce monde de mecs aussi. Merci Julie Gayet d'avoir été ce soir notre invitée sur RTL. Le souffle du dragon, c'est donc ce soir 21h10 sur M6, film suivi d'une soirée spéciale d'un documentaire dans le cadre d'Octobre Rose. Merci d'avoir été notre invité. On va marquer une toute petite pause et puis RTL Soir va continuer de vous informer, de vous épauler aussi avec vos dessous de l'actu. Nous avons passé la journée dans une station-service de la région parisienne. Autant vous dire que l'ambiance était un poil tendue. À suivre aussi, laissez-vous tenter, dernière. Simone, le voyage du siècle, le biopic sur Simone Veil, c'est demain au cinéma et on en parle juste après ça, tout de suite.
RTL Soir. Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
18h30.
RTL Soir. Julien Cellier, Marion Calais.
RTL Soir, toujours avec vous. Les trois titres à retenir dans l'actualité de cette fin de journée avec vous, Marion Calais.
Et cette dernière minute, la grève qui s'étend chez Total Energy, la raffinerie de Donges, désormais aussi concernée par le mouvement. Cet après-midi, Elisabeth Borne a annoncé une réquisition des personnels des dépôts de carburant du groupe Esso ExxonMobil, où un accord a été signé par deux syndicats. Après avoir critiqué son positionnement sur le terrain, Kylian Mbappé hausse le ton. Il dit vouloir quitter le club dès le mois de janvier prochain, après avoir décidé pourtant de rester au printemps dernier. Et puis en Ukraine, nouvelle découverte macabre. Le bureau du procureur général d'Ukraine annonce que 78 corps de civils ont été exhumés dans deux villes récemment reprises aux forces russes.
Le temps pour demain, Peggy.
Gris avec encore quelques averses demain matin entre les Pyrénées et les Alpes. Ailleurs, des grisailles matinale. Après dissipation de ces grisailles, on va retrouver un ciel entre nuages et éclaircies, des éclaircies plus larges entre les Charentes et les frontières du Nord, et les averses vont se limiter uniquement au relief, le tout sous des températures fraîches. Le matin au Nord, on sera sous les 10 degrés, l'après-midi de 16 à 20 degrés au Nord et de 20 à 24 au Sud.
Merci Peggy.
RTL Soir,
Les dessous de l'actu.
Et les dessous maintenant, de la pagaille dans les stations-service. RTL a passé l'après-midi dans l'une d'entre elles, à Bondy, en Seine-Saint-Denis, pour mieux vous raconter à quel point la situation est devenue chaotique. Ça fera peut-être écho à des expériences que vous avez vous-même vécues ces derniers jours. Bonsoir Hermine Leclèche.
Bonsoir.
Vous avez eu du mal, d'ailleurs, à accéder à cette fameuse station.
Oui, impossible de se garer autour de la station essence cet après-midi. La file de voitures s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Ça klaxonnait dans tous les côtés. J'ai vu des automobilistes se frayer un chemin sur le trottoir ou encore des camions bloquer totalement la circulation. Et forcément, des conducteurs étaient énervés, comme Tony.
Les gens ne prennent pas en considération que d'autres personnes sont en train de faire la queue correctement et convenablement. Et ils s'insèrent à la dernière minute en perturbant toute la circulation. C'est un comportement déplorable.
J'ai aussi vu beaucoup de monde remplir des jerrycans. Et puis la police coupait régulièrement la file pour faire le plein, ce qui a créé des tensions. On a souvent frôlé l'accident. Saïd est passé à deux doigts de se faire écraser par une automobiliste.
Je lui ai juste demandé qu'elle avance un petit peu pour prendre cette station et débloquer la situation. Mais elle ne veut pas. Et là, elle a passé juste, elle a failli lui écraser le pied.
C'est stressé à fond.
Oui, stress, on l'a compris, et tension dans cette station. Vous avez d'ailleurs rencontré des conducteurs carrément en panne sèche, c'est ça?
Oui, comme Antoine, qui travaille en région parisienne. Aujourd'hui, c'est avec le dépanneur qu'il est finalement venu faire le plein.
Je suis levé à 6h ce matin, j'ai fait 8 stations, et bien j'ai dû aller au boulot, et du coup, le temps de rentrer chez moi, je suis tombé en panne. Quoi.
Mais là, le dépanneur, vous allez être obligé de le payer?
Oui, 200 euros peut-être. Donc c'est la galère, de toute façon, c'est la galère jusqu'au bout. Hein.
Ça fait cher le plein quand même, effectivement.
Oui, c'est clair. Puis j'ai vu aussi certains essayer d'organiser un petit peu quand même tout ça. Salim, 35 ans, s'est par exemple improvisé agent de circulation. Sa femme, Ella, enceinte de 8 mois, l'attendait dans la voiture. Le couple a réussi à faire le plein au bout d'une heure. Mais dans l'après-midi, certains ont dû attendre 2 heures, voire 2 heures et demie avant d'avoir accès à la pompe.
Voilà, le chaos dans une station-service, des scènes que l'on retrouve un petit peu partout en France, et notamment le cas évidemment en région parisienne, l'une des régions les plus touchées. Merci beaucoup pour ce récit. Hermine Leclèche, vous qui avez passé l'après-midi à Bondy en Seine-Saint-Denis.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
18h et 34 minutes.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, on va sourire maintenant. On a bien besoin d'un petit peu de cinéma avec Stéphane Boutsock qui nous a rejoint. Bonsoir, cher Stéphane.
Bonsoir tout le monde.
Alors, un peu plus de 5 ans après la mort de Simone Veil, un film retrace la vie et l'œuvre de cette figure marquante de notre époque. Ça sort bien entendu demain, jour de sortie, le mercredi. Simone, le voyage du siècle, c'est signé Olivier Dahan.
Alors, je suis partagé sur le film, plus pour des choix de narration comme la loi sur l'avortement, expédiant 10 minutes au début, ou certains personnages comme Antoine Veil qui existent peu, mais c'est vrai que le destin de Simone Veil s'impose au final à l'écran. Droits des femmes, des malades, engagement européen, dénonciation de l'extrémisme, cette femme-là reste un modèle et ses combats, on le voit quasiment quotidiennement, résonnent encore aujourd'hui.
Donc dans ce film, on suit Simone Veil de sa jeunesse à sa mort. Forcément, plusieurs comédiennes l'incarne tout au long du film, Stéphane.
Rebecca Marder, formidable jeune actrice de la Comédie française qu'on va voir de plus en plus, ça c'est mon petit quart d'heure Michel Drucker, joue Simone jeune et c'est Elsa Zilberstein qui prend le relais à partir des années 60. C'est elle qui est à l'origine du projet. Il y a plus de 10 ans maintenant, elle a obtenu l'accord de la famille, elle a choisi le réalisateur, elle est devenue Simone Veil. Tout est parti d'une rencontre.
J'ai eu l'impression d'être face à un monument. J'ai un souvenir d'une femme tellement multiple. Je ressentais des choses très fortes, de force, de puissance et en même temps de grande vulnérabilité, de grande émotion et de grande humanité. Je pensais que cette femme méritait un grand film. Je trouvais que le cinéma était le vecteur idéal aussi pour transmettre aux jeunes générations, pour sensibiliser les gens d'aujourd'hui de 14, 15 ans qui sont peut-être au lycée Simone Veil, qui ne savent pas forcément vraiment à 13 ans. Et je trouve que le cinéma, c'est un vecteur, pas de vulgarisation, mais plutôt facile pour donner accès à l'histoire de quelqu'un. Et en sortant des Invalides de son enterrement, je me suis dit, ça y est, je le fais.
Alors, il restait évidemment à donner l'illusion de Simone Veil à l'écran. Ça passe par les maquillages, les coiffures, les vêtements, toute la panoplie habituelle dans le film. Mais pour Elsa Zilberstein, essentiel, c'est en fait jouer ailleurs.
J'ai travaillé pendant un an pour que ça soit, que je devienne elle. J'ai tout fait pour ça. Parce que d'imiter, c'est pas incarner. Je marchais Simone Veil, je mangeais Simone Veil, je parlais comme elle. J'étais obsédée par elle. Obsédée par chaque respiration, chaque battement de cils, chaque geste, chaque émission de télé, dans les années 70, 80. J'ai tout regardé, tout regardé, tout regardé. Et j'ai marché pendant 8 mois avec ces chaussures, j'ai pris 9 kilos. Ça a été un long processus qui a mis un an parce que tu le fais pas du jour au lendemain. Et donc d'infusion totale de mon propre corps. D'ailleurs, je regardais une photo qu'un photographe de plateau m'a donnée hier, c'est marrant, comme un cadeau. Je voyais mes jambes, j'ai dit mais j'ai pas les mêmes jambes. Tout mon corps s'était transformé.
Elsa Zilberstein, mais aussi Rebecca Marder, donc Olivier Gourmet, Elodie Bouchès, Philippe Torreton, Sylvie Testu. À l'affiche de Simone, Le voyage du siècle d'Olivier Dahan. Vous découvrez ça au cinéma à partir de demain.
Ça sort effectivement demain. Merci beaucoup Stéphane Boutsock pour ces confessions d'Elsa Zilberstein. Assez incroyable la transformation physique de l'actrice. RTL Soir, la suite c'est dans quelques secondes. On va défaire le monde. Petit jeu de chaise musicale en studio avant les 20 minutes d'Info Autrement. Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Alors l'Ukraine réclame un bouclier aérien au G7. L'Ukraine qui a évité les deux tiers de la pluie de missiles russes hier. Au fait, une défense anti-aérienne, comment ça fonctionne? Comment on intercepte un bombardement adverse? Est-ce que nous en France on est protégés? Eh bien on va s'interroger juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.